Il s'affiche aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
Et c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, ça, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Terrain Vague. Aujourd'hui, je suis à Pierre-Vive, au domaine départemental. Je ne suis pas dans les locaux de Divergence. Je suis à Pierre-Vive pour la visite de presse de l'exposition de Lek et Sowat. Voilà, deux artistes français qui délivrent une exposition très personnelle et très rétrospective de leur carrière, enfin, des projets qu'ils ont menés jusque-là. Je vous propose de suivre cette visite avec moi et d'écouter des moments choisis de cette visite guidée, notamment animée par Benjamin Reverdy, qui est le responsable de la galerie d'exposition que nous avons déjà reçue dans Terrain Vague, et Sowat, qui du coup prend la parole pour nous expliquer cette exposition, et puis Lek, qui interviendra de manière spontanée et ponctuelle. Voilà, je vous laisse découvrir cette exposition de manière auditive et je vous invite à venir la voir au domaine départemental de Pierre-Vive.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
On va se présenter avec Fred. C'est un truc qui ne se fait pas trop dans le milieu de venir, dans le milieu du graffiti en tout cas, de révéler son identité, son intimité, son histoire familiale. Et donc nous, ce pas de côté, il nous intéressait. Et on s'est dit, quitte à organiser une rétrospective, ce qui est drôle en soi, parce que ce n'est pas forcément aux artistes d'organiser leur propre rétrospective, mais nous, on trouvait l'idée intéressante, on s'est dit qu'on allait se présenter. Donc pour se présenter, on vous a ramené nos photos de famille, d'où on vient, nos parents, nos grands-parents, nos origines. Fred, il est d'origine polonaise, moi je suis à moitié américain. Et on s'est dit qu'on allait comme ça visuellement vous présenter notre vie. Donc on commence avec l'enfance et on va à l'adolescence, notre découverte du graffiti, nos premières peintures, puis nos travaux de jeunes adultes, jusqu'à arriver à la collection de Polaroid que vous voyez sur la droite, qui est notre carrière plus récente. Et en commençant ce dialogue avec Fred de travail sur la jeunesse, qu'est-ce qu'on montre de notre jeunesse? On s'est retrouvé aller dans nos caves, ouvrir des cartons de nos chambres d'enfants. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans, en fait, de montrer finalement ces objets de notre enfance et notre adolescence, de les montrer comme ça dans une vitrine. Tout de suite, ça fait muséal, sérieux. Mais il y avait quelque chose qui nous plaisait aussi, c'est-à-dire que, en fait, quand vous regardez le détail de ce qu'on présente dans la vitrine, il y a tout un tas de technologies qui sont devenues obsolètes. C'est-à-dire que, par exemple, quand on montre la collection de cartes téléphoniques de Fred, qu'il avait mis en place patiemment quand il était ado, c'est marrant parce que moi, quand je raconte ça à mes filles, elles me regardent avec des yeux tout ronds. Quand je leur dis, on allait dans des cabines téléphoniques, on appelait, c'était le papa de nos petites amies qui répondait, le téléphone était dans le salon. Et on s'est dit que ça, c'était quelque chose d'intéressant, de commencer par quelque chose de très sensible comme ça, très intime. Et puis, du coup, voilà, on vous montre c'était quoi notre adolescence. Notre adolescence, c'était les vinyles de Michael Jackson, c'était des vestes en synthétique Adidas, des bombes aérosols Krylon, et puis voilà, nos collections de cassettes, nos premiers appareils photo, tout ce qui nous a permis, en fait, de devenir artistes, de documenter nos travaux de l'époque et de garder une trace. Et donc, on vous montre tout, quoi, nos DVD, nos CD, nos cassettes VHS, tout en étant conscient que c'est drôle, puisqu'en fait, tout ça aujourd'hui rentre dans un téléphone, dans un iPhone. Et alors que nous, on a gardé ces traces, ces objets, mes enfants, eux, peut-être que si un jour ils exposent leur jeunesse, ce qu'ils exposeront seront des vieux iPhones. Et donc voilà, on commence cette exposition par cet amas, en fait, cette collection, entre guillemets, d'objets obsolètes. Et puis on termine sur la droite avec nos toutes premières publications. Moi, j'ai découvert le travail de Lek dans ce livre qui est ouvert ici, qui s'appelle Capital, dans lequel Fred avait deux des plus belles double pages, je trouve. On montre les premiers livres qu'on a sortis. Moi, j'avais fait un livre qui s'appelle La France d'en bas, où j'avais notamment documenté la naissance du graffiti dans le sud de la France et à Montpellier. J'étais venu beaucoup à l'époque pour interviewer les acteurs de l'époque, Desch, les C4, les TDM, voilà, toute cette génération-là. Et Fred, lui, avait fait un premier livre avant qu'on bosse ensemble qui s'appelle Nothing But Letters, qui est juste là, qui était centré sur la typographie. Et puis pour l'anecdote, là, il y a une toute petite bague, c'est ma bague de fiançailles, avec mon tag qui était juste ici, là, qui était façonné, en fait, dans la bague. Et on montre aussi le clou du spectacle pour nous, c'est ce que vous voyez derrière, là.
Ah oui.
C'est des nameplates. Donc ça, c'est des trucs... Ça fait partie des objets qui font que le graffiti n'est pas qu'un arc artistique, c'est aussi une culture. Tous les ados de notre âge qui sont intéressés à la culture hip-hop ont rêvé ou ont réussi à avoir ce qu'on appelait une nameplate, ce que vous voyez là, c'est-à-dire son nom comme ça sur sa ceinture. Et donc Fred et moi avions fait ça il y a 30 ans. À l'époque, Lek ne s'appelait pas Lek, il s'appelait Zark. Et donc voilà, ça nous est marré de mettre ça un peu dans un cadre qui soit un petit peu muséal, comme ça, cet objet trivial. Et ça nous permet d'arriver à la première partie de l'exposition. Et à l'époque, Lek est un maître de ce qu'on appelle l'urbex. Donc l'urbex, c'est l'exploration urbaine, c'est l'idée de sillonner la ville et de chercher des lieux abandonnés dans lesquels travailler. Et en 2010, Fred trouve un supermarché abandonné dans le nord de Paris, qui fait 40 000 mètres carrés, qui est immense, qui est vierge. Quand des gens comme nous qualifient un lieu de vierge, c'est pour dire que d'autres artistes n'y ont pas encore peint. Et l'un et l'autre, on avait des métiers alimentaires à l'époque, on avait décidé de lâcher nos boulots alimentaires pour se donner une chance, et en fait, dans l'art, pardon, et on s'est enfermé dans ce centre commercial pendant quasiment 2 ans. Les premiers mois, c'était juste pour y peindre Fred et moi, et puis au fur et à mesure, on a commencé à inviter de manière systématique des artistes, plutôt des gens abstraits, on va dire, pas vraiment la branche figurative du graffiti, et puis de faire des compositions à 2, 4, 6, 8 mains, enfin, voilà, vraiment se mélanger dans des espèces d'improvisations. Et puis ce bâtiment, il nous a transformés avec Fred, c'est-à-dire qu'au début, on y allait que pour peindre, et puis au bout d'un moment, on a arrêté d'y peindre. On a commencé à fouiller, le bâtiment était singulier parce qu'il avait été squatté pendant très longtemps, tout le monde a été viré du jour au lendemain, et puis en fait cette matière première, on a fouillé, on a commencé à trouver des dessins d'enfants, voilà, tout un tas de choses qu'on a ramené, des artefacts qu'on a ramené de ce projet, qu'on présente comme ça sur ce premier mur dédié à ce projet mausolée.
Vous semblez très attaché au côté objet.
Oui.
Est-ce que vous ramenez des objets de chacun de vos projets
dès
que vous pouvez, et parce que j'ai l'impression que c'est quand même très graffiti, à force d'en côtoyer, ouais. je le vois, des photos, les ceintures.
On appelle ça le fétichisme. Ouais. Non, mais oui, on est tous fétichistes.
Mais ça a vraiment... Peut-être la peur qu'une culture
en efface une autre.
Ouais, voilà, ouais.
Je trouve que c'est quelque chose de très prégnant dans le graffiti.
Oui, mais parce que je pense qu'on y tient tous ces objets, tu vois, quelque part, c'est... Parce que là, on se rend pas compte, mais à l'époque, porter sa ceinture avec sa nameplate, c'était...
Ça doit être un truc de fou, quoi.
Exactement. Donc, il y a un côté, après, t'as envie de le garder comme un... J'en sais rien, comme un bijou d'une reine, tu vois, c'est la même valeur.
Ah, c'est un côté vraiment relique.
Ah, complètement, tu vois, c'est pour que je l'ai encore, alors que je fais attention à ce que je récupère.
Eh oui, je me doute. Merci.
Il faut s'imaginer deux garçons... sans être payés, avec une volonté assidue, artistique et au-delà de ce qu'ils ont dans la tête, de rentrer tous les jours.
Ça a été compliqué de couper le cordon ?
Oui. Oui, parce qu'en fait, c'était... La vie d'artiste, c'est précaire, et donc quand tu trouves comme ça des espèces d'oasis, en fait, c'est tout violent. L'endroit, il est très dur d'accès. C'est compliqué d'aller dans cet endroit pendant si longtemps en se disant c'est mon avenir, mais ça devient aussi quelque chose qui te protège, ça devient vraiment un endroit où tu peux éclore, je trouve.
Ouais, parce qu'on était vraiment tout seul dans ces endroits-là, donc déjà entre deux, on ne faisait que s'alimenter en idées, que oui on peut rester, oui on peut faire de l'installation, oui on peut faire ça, on peut ramener des étrangers, ou tu vois, et ça commençait à aller trop loin, et on s'était dit il nous fallait quand même... une sorte de projet un peu gros pour justement montrer que notre culture, elle est bien plus large que ce qu'on peut voir.
Bien sûr.
Et c'était justement en développant ces différentes peintures avec les différentes personnes et en utilisant le lieu au mieux, qu'on allait montrer que justement tout ça, qu'on a un peu d'intelligence derrière notre démarche, et c'est ça qu'on voulait mettre en avant.
Oui, c'était pas juste histoire de tartiner un bâtiment.
C'était pas simplement que peindre, c'était vraiment l'ensemble, comme il le disait, récupérer ça. Là, c'est un peu en mode chirurgical, mais justement, nous, on le voyait comme ça. Parce que si tu le montres de manière chirurgicale et pas forcément dans le chaos, eh ben, il y a une meilleure compréhension.
Ouais, ça prend une autre ampleur aussi.
Exactement.
Et donc, ce premier projet, il nous ouvre les portes du Palais de Tokyo. Je vais faire l'introduction avant de vous ramener dans la zone qui est plus petite. Donc, Palais de Tokyo, vous savez tous ce que c'est. Grand centre d'art contemporain parisien, qui n'est pas un lieu qu'on a fantasmé avec Fred. C'est-à-dire qu'on y allait un peu en tant que public, mais et l'un et l'autre, on est autodidacte. Et on n'a pas grandi artistiquement dans l'obsession un jour d'aller travailler au Palais de Tokyo. Mais un jour, un vernissage fait qu'on a Jean Loisy en face de nous. Jean Loisy, c'est, à l'époque, il est directeur du Palais de Tokyo. Et un peu bravache, comme ça, on lui dit il n'y avait jamais rien eu autour du graffiti au Palais de Tokyo, ce qui, pour nous, à l'époque, était un non-sens. Cette culture, ça fait 50 ans qu'elle se déploie en France. Et il y a des artistes immenses français qui ont participé à l'émergence de cette culture qui mériterait d'être mis en lumière, qui aurait mérité mille fois d'être invité au Palais de Tokyo avant nous. Et donc on raconte tout ça à Jean Loisy en disant mais laisse-nous organiser la première exposition de graffiti au Palais de Tokyo et vous voulez quoi les garçons? On veut tout le bâtiment, c'est ce qu'on lui dit. Voilà.
Efficace.
La chance qu'on a eue, c'est qu'il avait vu, le film Mausolée, donc il était au courant de ce qu'on avait fait. Et je vous fais une très longue histoire très courte. Il nous invite une première fois à peindre avec John Giorno. John Giorno, c'est un monstre de l'art contemporain, c'est l'ancien amant de Andy Warhol. Pour ceux qui connaissent, il y a un film de Warhol qui est célèbre qui s'appelle The Sleeper, où il y a un mec qui dort pendant 8 heures. John Giorno, c'est le mec qui dort pendant 8 heures, puisque Warhol invente la télé-réalité avant l'heure qu'on voit. C'est notre conversation. et donc on fait deux murs avec Giorno, et en gros ce qu'on nous dit, c'est si ça se passe bien avec Giorno, on vous donne une issue de secours. Et donc ça se passe bien avec John Giorno, on nous donne une issue de secours et de fil en aiguille on va passer 2 ans au Palais de Tokyo avec Fred. Un, à travailler sur cette première exposition où on nous invite, mais deux, surtout à prendre tout le reste du bâtiment comme on avait dit à Jean Loisy. Et on a multiplié les interventions à l'extérieur de notre exposition, que ce soit pour nous mais aussi pour la quarantaine d'artistes qu'on a invités à venir travailler avec nous. On appelait ça le vandalisme invisible à l'époque avec Fred, et l'idée c'était de dire en fait dans le hall d'entrée du Palais de Tokyo à l'époque il y avait un grand espace de médiation dédié aux jeunes publics, et donc dans cet espace de médiation il y a un tableau noir que vous voyez ici, et on va avoir l'intuition avec Fred de se dire on va inviter des gens à peindre sur ce tableau noir et on va leur demander de créer et de détruire ce qu'ils sont en train de créer. Et nous, ça, on va le filmer et on va faire un film qui montre que la destruction, c'est le moteur du graffiti. Tous les graffeurs, comme le disait tout à l'heure Benjamin, en fait, le graffiti, c'est une question éphémère. Donc, tous les graffeurs cherchent des moyens de lutter contre l'éphémère. Et donc, la destruction a toujours fait partie de notre pratique. Et on s'est dit, ben, ça, on va essayer de le filmer, cette idée que la destruction conditionne notre culture. Et donc on va inviter une vingtaine d'artistes comme ça la nuit. Généralement ça commençait à 20h, et puis soit il restait 1 heure, soit il restait 2-3 heures, ça dépendait des gens, et puis nous on va les filmer. Et donc là vous voyez Ski par exemple, qui est première génération du graffiti parisien, qui est un des maîtres de notre culture, avec J1 qui est aussi un des maîtres de notre culture. Et l'idée c'est de les mélanger avec des artistes plus jeunes. Et puis on va culminer, en invitant Jacques Villeglé, qui est l'artiste qui a fait le dernier dessin sur ce tableau noir. Excellent. Qui est le seul dessin qu'on n'a pas voulu effacer, en se disant que ça serait les femmes de ménage du Palais Tokyo qui l'effaceraient, ce dessin de Jacques Villeglé. Puisque comme vous l'avez compris, on déboule avec Jacques Villeglé, 92 ans. Il va débouler dans le film dans pas longtemps. Pour le filmer au palais sans que la direction soit au courant. Et en fait, ça va être le moment où on aura le plus peur avec Fred. Vous le verrez dans le film, là, il monte sur une échelle. Et donc, Jacques Villeglé n'est pas assuré dans le palais de Tokyo, en équilibre sur une échelle, en train de trembler comme ça, avec ses 92 ans, ça a été quelque chose. Mais bon, il ne se passe pas ça, le palais de Tokyo n'est pas idiot non plus. Il voit bien qu'il y a un Jacques Villeglé dans le rôle d'entrée. Donc ce dessin, ils ne vont pas l'effacer. Il va se passer ce que vous voyez là, c'est-à-dire que le public va spontanément se mettre à faire des dessins dans la poussière. Et nous qui sommes intéressés par l'institutionnalisation des arts urbains, ben on trouve ça passionnant en fait, cette œuvre où du graffiti fait son apparition par-dessus d'autres graffitis, on adore. Et puis quelques mois après, la direction nous indique que le tableau noir va être rejeté, qu'ils vont refaire l'espace. Et apprenant ça, ben on se débrouille de savoir quand est-ce qu'ils vont le jeter, et puis on va être là en fait le jour où ils l'enlèvent. Et puis il y a deux mecs qui vont hop, enlever ce tableau, ce tableau du mur. Et nous, on va sortir du palais de Tokyo comme si c'était normal, en fait, avec un Jacques Vidéglé de 2 mètres par 1, comme ça. Et puis on va le stocker pendant des années, ce tableau noir, jusqu'à réussir à le faire rentrer dans les collections du Centre Pompidou en 2014.
Mathieu et Fred se posent la question de postuler au concours pour entrer en résidence à la Villa Médicis à Rome, donc l'institution française. Donc jamais aucun artiste venant de l'art urbain n'était rentré dedans.
De la même manière que le palais nous a transformés, Rome va nous transformer d'une autre façon avec Fred. Déjà, c'est le premier endroit où on va se sentir légitime, puisqu'on réussit un concours. Nous, ce qu'on dit à tout le monde, c'est comme si on avait passé notre diplôme de fin d'année de réussir ce concours. Et en fait, très vite, dès le premier jour, c'est hyper abstrait pour tout un tas de gens, la Villa Médicis. En fait, tu passes un concours, tu sais que tu vas déménager, mais c'est un déménagement où quelqu'un s'est occupé de te trouver un appartement et un atelier. Mais en fait, tu sais pas trop à quoi ça va ressembler, c'est bizarre, quoi. Et le premier jour, on arrive comme ça, ils nous montrent nos appartements et ils nous montrent notre atelier. La seconde où ils ouvrent la porte et on voit cet atelier avec le plafond à 8 mètres, une fenêtre comme ça qui donne sur la cité éternelle, espèce de lieu magnifique. Dans la seconde, ça a transformé notre année, c'est-à-dire qu'on s'est dit, mais c'est ça le cadeau qu'ils nous font, la Villa Médicis, c'est l'atelier. Et nous qui avons passé tant d'années à travailler en extérieur et à pas trop produire d'œuvres en atelier, on va s'intéresser à ça. Et donc on va commencer à produire ce genre de toile que vous voyez là. Nous, on arrive à Rome en se demandant ça va être quoi les correspondances entre notre boulot et la ville éternelle. Une des correspondances, ça va être les marbres. En fait, on fait le tour de la ville, on découvre l'espèce d'impressionnante collection de marbres qu'il y a dans toutes les églises romaines. Et on va s'inspirer de ces marbres pour commencer à créer ce genre de composition. Là, on vous montre celle-là, mais on en a fait des dizaines de toiles comme ça avec Fred dans l'atelier, qui était voilà, très inspiré par le marbre. Quand on passe au concours de la Villa Médicis, à notre époque en tout cas, tu dois produire ce qu'ils appellent un projet romain. Qu'est-ce que je ferais en gros, qu'est-ce que je ferais pendant un an si j'étais pris à la Villa Médicis? Et nous, notre projet romain, il est autour du monde des tunneliers. En fait, on leur dit, on vient à Rome pour prendre la talpa. La talpa, c'est la taupe. C'est le nom italien pour le tunnelier. Le tunnelier, c'est des machines, c'est la maquette que vous voyez derrière vous. C'est des machines qui creusent et construisent des tunnels, notamment du métro. Et donc, pour des artistes comme nous, c'est la matrice originelle. En fait, sans tunnelier, sans tunnel de métro, il n'y a pas de graffiti.
Ah oui.
Donc, on avait cette obsession avec Fred de peindre un jour un tunnelier, et notamment à Rome. Et on n'y a pas réussi à Rome. Ça a été impossible. On n'a même pas réussi à approcher la machine. C'est très compliqué. C'est un environnement éminemment politique. On a juste une photo, une fois, de la taupe. Mais nous, on n'a pas réussi à la peindre. Et le hasard de la vie a fait que des années après, on a eu l'occasion de le faire à Paris, grâce à Jérôme Jean-Jean, qui bossait pour NGE, qui est un des groupes de BTP qui est en train de construire le Grand Paris, à qui on a fait part de notre idée quand on l'a rencontré, et qui a réussi à convaincre sa boîte NGE de financer cette aventure. Et cette aventure, elle a eu trois étapes. La première, c'est ce que vous voyez là. On est en Allemagne, chez Erich Knecht. C'est le fabricant de ces machines. Donc, deux chiffres pour vous rendre compte de l'ampleur de ce genre de bête. Celle-là, elle fait 10 mètres de haut et 100 mètres de long. Dans le hangar dans lequel on travaille, il y en a une deuxième, vous la devinez sur la gauche, là. C'est-à-dire que le hangar, il est capable de recevoir deux monstres de 10 mètres de haut et 100 mètres de long. Et des hangars comme ça, il y en a 20 dans cet endroit. C'est à Schwanau, en Allemagne, près de la frontière strasbourgeoise. C'est un espèce de champ de pommes de terre avec rien. Et puis tout d'un coup, une espèce de ville-monde où ils construisent ce type de machine.
Un terrain de jeu incroyable.
On a fait un premier voyage.
On était impressionnés.
Ouais,
ça faisait penser un peu à l'environnement comme le type fusée, NASA.
Ah ouais, complètement.
Ce que tu conçois dans l'intérieur de ce tunnelier, là, c'est là où tu te rends compte un peu de la technologie qu'il peut y avoir.
Quand la machine rentre en contact de la roche et qu'elle commence à faire son travail, ben, on a deux œuvres qui se détruisent en même temps. Celle qui est peinte sur la machine, vous la voyez ici, ce qu'il en reste, et celle qu'on a peinte sur le mur. Toutes ces machines, elles ont. Le monde des tunneliers, c'est un monde très masculin. Donc toutes les machines ont une marraine. Elles sont systématiquement marrainées par une fille. Et c'est pour ça que sur celle-ci, il y a écrit combat, il n'y a plus écrit ce boyard. Puisque NGE voulait célébrer Kumba Larock, qui est une jeune athlète qui était marraine de cette machine. Donc ça, c'est notre deuxième étape. Et notre troisième étape, c'est le monstre que vous voyez derrière. C'est le mur à travers lequel la machine va ressortir, c'est-à-dire que quand elle sort la machine, elle a fini son parcours, le tunnel du métro existe, et on a pu peindre ce mur
et ensuite assister à sa destruction en live. On est en face, en fait, avec Fred, on est une trentaine comme ça, avec les ingénieurs de NGE et de la RATP, ce qui est savoureux, pour assister comme ça à la destruction de notre travail. Et on voulait absolument faire ça avec Fred, puisque finalement, tout le monde connaît un peu le monde des tunneliers, mais pas le détail, évidemment. Hein, mais ça, c'est des images. Quand, si vous vous rappelez du percement du tunnel sous la Manche, c'est le moment où le grand public découvre l'existence de ces machines. Et en fait, ils avaient vachement communiqué sur ce moment-là, le moment où la machine perce, termine son parcours. Ben voilà, on rêvait avec Fred d'être capable de rentrer les trois étapes, la machine dans l'usine, le mur à travers lequel elle rentre et enfin le mur à travers lequel elle sort. Donc voilà ce qu'on montre sur le monde des tunneliers. En 2019, Sophie Duplex, qui est conservatrice en chef au Centre Pompidou, qui est la personne qui a réussi à faire rentrer le tableau et le film qu'on vous a montré en début d'exposition, nous invite à venir travailler au centre. Elle nous explique qu'il y a des travaux sur le parvis, que le public va passer, va rentrer dans le musée par l'arrière du bâtiment, la rue du Renard, c'est la rue que vous voyez ici. Et donc, il va y avoir un dispositif sécuritaire qui va être installé pour protéger le public. Et elle nous demande de réfléchir à une œuvre sur ce dispositif sécuritaire. Donc là commence un an de dialogue. Voilà, des fois, certains projets, ça prend du temps, en fait, entre le moment où on t'en parle et le moment où ça se réalise. On commence un an de dialogue avec le Centre Pompidou sur quoi faire sur ce fameux dispositif sécuritaire. Si je devais résumer, à la première réunion, le centre, ils nous disent « Vous prenez pas la tête, faites-nous une proposition, une œuvre abstraite. Par contre, on veut que vous sachiez que c'est l'endroit qui est le plus tagué du bâtiment. L'arrière du Centre Pompidou, c'est plus discret que le devant. Le Centre Pompidou, c'est un symbole. Donc, tous les graffeurs de Paris ont à un moment tagué ou voulu taguer près du Centre Pompidou. Il nous dit qu'il pourrait nettoyer tous les jours les colonnes blanches, par exemple, que vous voyez sur la photo, que le lendemain, il y aura à nouveau quelque chose. Et donc, on nous indique que quoi qu'on fasse, ce sera indiqué dans nos contrats que le centre ne peut pas garantir l'intégrité de l'œuvre, ce qui est en soi est intéressant, en fait. C'est étonnant quand tu es artiste et qu'on te dit « tu vas faire quelque chose, mais ça va être détruit et je peux rien faire contre ». Et donc, à partir de là, ça va devenir, avec Fred, une réflexion sur comment est-ce que je fais pour anticiper ce vandalisme. Puisque, de toute manière, quoi que je fasse, je vais être vandalisé, il faut que je trouve un moyen de l'intégrer. Et donc, l'idée qu'on va avoir, c'est le sketch que vous voyez là. On va se dire, bon ben, on va écrire quelque chose, parce que si on écrit quelque chose, ça va créer un rythme, ça va créer des aplats. Et peut-être que le vandalisme, il va travailler à l'intérieur de ces aplats. Et donc, à partir du moment où on a cette idée de travailler en aplats et que peut-être que ça va organiser, entre guillemets, le vandalisme, quoi écrire ? Donc, ça faisait longtemps qu'on voulait écrire « J'aurais voulu être un artiste quelque part » avec Fred. Et donc, le fait que le Centre Pompidou nous invite, encore une fois, à travailler en extérieur sur du bâtiment, matériel sécuritaire, en gros, qui nous envoie à la même place qui nous est toujours assignée. Ça nous paraissait être l'endroit idéal pour écrire « J'aurais voulu être un artiste ». Et donc ça, ce dispositif va rester 2 ans en place. Et pendant 2 ans, il va se passer exactement ce que vous voyez là. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, ça va se remplir de graffiti. Alors, il va y avoir des graffitis, des écritures de graffeurs, certes, mais pas que. Il y a beaucoup d'écritures politiques. C'est un lieu de passage, de manifestation, le Centre Pompidou. Donc, il y a les colleuses qui sont venues mettre des phrases sur la palissade. Il y a des trucs plus, il y a des ACAB partout. Il y a des trucs contre le système, regarde, des écritures genre « Bravo les lesbiennes ». Il y a eu plein de manifestations autour du genre qui sont passées devant le Centre Pompidou. Et ça culmine tout ça en 2019 avec une première manifestation en fait qui va avoir lieu devant le Centre Pompidou. Il va y avoir des heurts hyper violents entre les gilets jaunes et les forces de l'ordre. Et donc ça, on va en faire un film qu'on vous montrera après dans la salle de projection. On va en faire un livre qui est là. Et surtout, on va faire mettre dans les contrats avec Fred qu'on veut récupérer les plaques à la fin du dispositif. Et donc ça fonctionne. En 2019, on récupère 132 plaques comme ça avec Fred. Et ces plaques, elles sont à différents degrés de vandalisme. Il y en a plein qu'on va juste laisser, on va juste les nettoyer, on ne va pas les toucher comme celle-ci, puisque c'est ce qu'on avait dit qui se passerait au Centre Pompidou. On va créer des aplats, les gens ils vont taguer dedans. Mais il y en a plein où notre taf il va complètement disparaître. Donc par exemple, sur la ligne jaune, Il y a des flops qui sont peints par-dessus nous. Des flops, c'est une manière très rapide d'écrire son nom en gros. Et donc, quand on récupère cette plaque, par exemple, on ne voit plus le jaune. Le jaune, il est absent. Ça, c'est pris dans les taux. Et en fait, la peinture grise et violette que vous voyez, elle recouvre complètement notre travail. Et on va se dire avec Fred, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de poncer pour faire réapparaître notre travail et pour vandaliser le vandalisme de notre propre œuvre. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça devienne un entre-deux, qui est l'œuvre qui nous a taillé, qui reste encore un petit peu visuelle. Et qu'en fait, tu regardes ça avec ton éducation artistique, c'est-à-dire que n'importe quel graffeur, il voit ça, ça lui rappelle le métro new-yorkais mal nettoyé. Par contre, des gens qui sont plus sensibles à la peinture contemporaine, ça peut faire penser à du Tombly, ça peut faire penser à d'autres peintres plus contemporains. Et donc, quand on est venu visiter le bâtiment pour repérer en fait qu'est-ce qu'on allait faire dans cette exposition, Fred, qui est très sensible à l'architecture, repère tout de suite que en fait, l'espace d'exposition il se termine par un des plans inclinés de Zaha Hadid, c'est-à-dire que l'architecture de Zaha, elle est à l'intérieur de l'espace d'exposition et qu'il faut absolument qu'on s'en serve en fait. Et donc plutôt que de créer un mur droit là, comme ça qui aurait pu masquer le plan incliné, on a pitché à Benjamin et Marie avec qui on a travaillé sur cette installation. L'idée en fait qu'on vienne recouvrir le plan incliné de Zaha Hadid de cet ensemble de plaques, il y en a 24 là, des plaques, et que ça vienne ponctuer comme ça cette exposition, mais aussi cet amour qu'on a pour l'architecture en général et Pierre Vive en particulier.
Dans les projets qui sont présentés là en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il y a une temporalité particulière sur vos projets. Enfin, c'est toujours des choses assez longues. Que ce soit le mausolée ou les tunneliers, tout ça, on est sur des...
C'est du très long
terme. En amont ou pendant, c'est des choses qui... C'est pas compliqué de passer... Enfin, pour vous, de passer d'un projet à un autre quand vous passez autant de temps...
Non, c'est comme si on l'avait toujours fait comme ça. Ça a été compliqué sur mausolée, je trouve. Mm-hmm. Parce que là, sur le palais, ça a été long.
C'était le premier gros, aussi. En plus.
Voilà, c'était le premier gros. Était très sur les histoires de peur. Moi, j'ai vraiment passé un an à avoir mal au ventre, à me dire « Ah putain, j'espère que personne ne veut. » Mais tu peux pas vivre comme ça.
Ouais.
Donc, il faut changer. Et donc, avec le temps, j'ai l'impression qu'on a appris un peu à lâcher prise. Mm-hmm. Mais après, de passer d'un projet à l'autre, non, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt bien, en fait. Tu vois, là, on a préparé cette expo pendant un an, mais pendant qu'on préparait, c'est lourd ça aussi, tu vois.
Eh oui.
Mais pendant un an, on a fait d'autres choses, et en fait, ce autre chose, c'est comme n'importe qui, quoi.
Ça donne de la respiration au milieu de la préparation.
Oui, mais parce qu'après, il le dit pas forcément, mais on est assez boulimique aussi de projets, de faire des choses. On fait toujours 3-4 trucs en même temps. Tu vois, et je pense qu'on a besoin aussi de cloisonner différemment tous les projets, tu vois, même s'ils s'empiètent les uns, tu vois, ils se mettent les uns sur les autres, ben quelque part, oui, c'est grave parce que t'as une tension, là t'as de l'attente, là t'as quelque chose qui, tu vois, et c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait plusieurs projets en même temps.
Ouais, parce que t'as quand même la sensation que t'avances sur d'autres choses, ouais, pendant qu'il y a une inertie sur
d'autres. Parce que sinon,
si
tu restes sur qu'un seul projet, je pense qu'on on serait devenu vraiment fou.
Là, ce truc d'ouvrir le mausolée, si c'est la seule chose à laquelle on pensait,
ouais,
comme c'était le cas quand on faisait mausolée, on pensait que à ça, on serait en train de suffoquer, quoi.
Ouais, tu vois. Et si ça marche pas, t'arrêtes.
Ouais, et puis vous aviez lâché vos jobs respectifs, du coup, donc à un moment donné, il fallait vivre aussi de ça. Ouais. Donc, tu peux pas faire toujours qu'avec de la peinture de récup en attendant qu'éventuellement quelque chose. Ouais.
Non, c'est venu plus tard, ça.
Ouais. C'était l'exposition In Retrospect de Lek et Sowat, visible donc au domaine départemental de Pierre Vive. Je vous invite à aller la voir parce que c'est une exposition très intéressante. La démarche artistique des artistes est vraiment passionnante. Elle est visible jusqu'au 27 juillet à Pierre Vive. Je vous recommande la visite guidée avec l'audio guide. Et je remercie les artistes et Benjamin Reverdy pour cette visite de presse. Et pour ce moment partagé et privilégié. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode de Terrain Vague.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graffiti, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tel des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.